Bonne nuit sur France Inter.
Il est 1h du matin, le flash Raphaël Aubry. Cette décision doit nous inviter à redoubler de détermination pour rétablir nos finances publiques. Réaction du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Les agences de notation Fitch et Moody's ont laissé inchangées ce vendredi soir les notes souveraines qu'elles attribuent à la France. Des notes inchangées malgré le fort dérapage du déficit public à 5,5% l'année dernière. Les commentateurs étaient moins optimistes. Moody's juge en revanche improbable que le gouvernement atteigne son objectif d'un déficit sous les 3% en 2027. La flamme olympique de Paris 2024 passe la nuit à l'ambassade de France à Athènes. Prochaine étape, Marseille. Elle doit embarquer sur le mythique voilier le Belém samedi matin, arrivé prévu le 8 mai prochain. Et on sait d'ailleurs qui sera le premier relayeur à la portée. Ce sera le nageur français Florent Manodou, quadruple médaillé olympique. La flamme a été récupérée vendredi par les organisateurs français lors d'une cérémonie dans le stade de Panathinaïque. Les manifestants pro-palestiniens qui bloquaient Sciences Po Paris depuis jeudi ont levé le camp. Ce vendredi soir, un accord a été trouvé avec la direction, indique-t-elle dans un communiqué. L'école a accepté certaines revendications comme la tenue d'un débat d'ici jeudi prochain et la suspension des sanctions engagées contre les étudiants. Des annonces accueillies par des cris de joie. Les abords de l'école avaient été évacués plus tôt dans la journée après des tensions entre pro-Palestine et pro-Israël. L'Union européenne annonce une nouvelle aide de 68 millions d'euros destinée à Gaza. Une hausse pour faire face à la détérioration de la grave crise humanitaire et l'augmentation constante des besoins sur le terrain, selon un communiqué de l'UE. Cela fait grimper l'aide sociale de l'Union européenne à 193 millions d'euros pour les Palestiniens. À Kiev, deux hôpitaux évacués ce vendredi par crainte de frappes russes, dont un pour enfants. Une annonce du maire de la capitale ukrainienne après la diffusion d'une vidéo qui projette une attaque sur ces bâtiments. Cette vidéo prétend que des militaires sont présents à l'intérieur. Les patients ont été déplacés vers d'autres établissements. En Grande-Bretagne, le roi Charles III de retour aux affaires. Il va reprendre ses activités publiques à partir de la semaine prochaine, indique Buckingham Palace. Ses médecins jugent son état de santé très encourageant. Charles III s'était mis en retrait début février après l'annonce d'un cancer. Le Befortus, efficace contre les formes graves de bronchiolite chez les nourrissons en France. C'est ce que révèle Santé publique France. Un quart des hospitalisations a été évité depuis l'automne dernier, soit près de 6 000. Ce traitement a été développé par le laboratoire Sanofi et est disponible depuis septembre dernier. La bronchiolite qui a lourdement pesé sur les hôpitaux français à l'hiver 2022 avec des urgences pédiatriques saturées.
De la ville de Salé et de miracles. Il sera question de cinéma égyptien, de désir et de frustration. Ce soir, il sera question d'homosexualité, de corps colonisés et des clochers de Martinville.
D'ici, d'ailleurs, Zoé Varier sur France Inter.
Bonsoir Abdel Attaya.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Abdel Attaya, vous êtes né en 1973 dans la ville de Salé au Maroc. Vous étiez 9 enfants dans la famille. Vous avez grandi ensemble, dormi ensemble, regardé la télé ensemble. Vous faisiez corps jusqu'au jour où votre différence sexuelle vous a obligé à vous séparer et à vous penser seul. Pendant 10 ans, vous avez cherché une issue pour sauver votre peau. Vous êtes arrivé en France en août 1998. En 2010, vous receviez le prix de Flore pour votre livre Le Jour du Roi. C'est votre parcours, Abdel Attaya, que nous allons évoquer ce soir ensemble. Abdel Attaya, qu'est-ce qu'on entend ? C'est un son de votre enfance, mais qu'est-ce que c'est ?
En fait, c'est un son recréé dans le premier film que j'ai réalisé, L'Armée du Salut. On entend le héros qui s'appelle Abdellah comme moi, et une de ses sœurs, Latifa, et ils sont en train de laver des couvertures et de les piétiner pour bien les laver.
Alors, il y a des bassines.
Il y a deux bassines et chacun d'eux est dans cette bassine en train de piétiner les couvertures sales pour bien les laver. Et évidemment, ça déborde, il y a de l'eau qui est partout, dans toute cette cour de la maison. Et il y a aussi une complicité entre ces deux corps, de la sœur Latifa et le héros Abdallah, qui est à demi nu, torse nu. Et c'est sale, c'est joyeux et c'est très libre.
Et c'est comme ça que ça se passait quand vous étiez enfant. C'est-à-dire que vous êtes inspiré de votre enfance dans votre film, qui était inspiré lui-même d'un de vos romans. Enfant, votre mère vous mettait tous dans des bassines à piétiner le linge pour le laver.
Elle avait raison de nous utiliser parce qu'on était tous pauvres. Il fallait bien qu'on participe à l'économie de la maison, à la propreté de la maison. Très important. Tout était extrêmement propre, lavé et relavé chaque jour, je ne sais combien de fois. Et ça, c'est quelque chose qui me reste côté. On est tous des corps pauvres, affamés, mais en même temps, on est tous des corps exploités de notre plein gré, si je peux dire, dans le quotidien de cette maison, dirigée évidemment pas par la mère. Mais je me souviens très bien qu'il y avait toujours des moments où ces corps, même s'ils vivaient d'une certaine injustice, d'une certaine façon, il y avait toujours un moment où ça débordait, où on n'était plus dans le respect de rien du tout, et on se mettait soit à danser, soit à chanter, ou alors, quand ma mère nous donnait l'occasion de piétiner nos couvertures sales, à un moment donné, la pièce et même toute la maison devenait comme une sorte de piscine dans laquelle on nageait, alors que ce n'était pas une du tout.
Alors donc, c'était très joyeux, c'est ça, vous criez, vous étiez tous ensemble, c'était de la joie.
Je ne pourrais pas dire que c'était de la joie tout le temps, c'était extrêmement intense, parce qu'il faut imaginer 11 corps, 7 femmes, ma mère, mes 6 sœurs, mon père, mon grand frère et moi, et mon petit frère et moi. Donc ça fait 11 corps dans une petite maison pauvre qui faisait même pas, je crois, 70 mètres carrés. Et donc comment ces corps, ils existent les uns avec les autres et comment ils inventaient parfois de la joie, mais c'était une joie qui arrivait par excès de famine ou excès de tristesse ou excès de tragédie. C'est-à-dire, il y a d'ailleurs un proverbe marocain qui dit « L'excès de tragédie fait rire ». Donc il y avait toujours effectivement ce moment où nos malheurs et et l'injustice dans laquelle nous vivions tous... À cause de la misère, par magie, peut-être parce que Allah tout d'un coup avait pitié de nous et tout d'un coup, boum, ça devenait des formes de danse, de joie. Mais pour dire la vérité, cette joie était momentanée.
Dans votre vie et dans votre enfance en général, tellement c'était dur, c'est ça ? C'était des
moments. Pas que pour moi. Pour vraiment préciser bien les choses, c'était pas dur que pour moi parce que j'étais homosexuel. C'était aussi dur pour mes sœurs. C'était aussi dur même pour ma mère.
C'était dur pour tout le monde, c'est ça ?
C'est dur pour tout le monde. C'est-à-dire, il fallait survivre. Il fallait que quelqu'un décide de la stratégie à établir et à appliquer pour que la survie arrive, si je peux dire. Donc. Pour moi, il est très important de dire à chaque fois que je parle de moi et de mon homosexualité, de lier à cette homosexualité, donc mon corps, au corps des autres.
Oui, c'est ça qu'il faut entendre. C'est-à-dire que vous étiez tous ces corps-là ensemble. Et ça, on va voir que c'est une idée qu'on va retrouver dans toute votre histoire. Les corps ensemble, faire corps avec votre famille.
Je ne peux pas oublier les corps de mes sœurs en train de se transformer, de devenir femmes. Et tout ce que cela implique dans le quotidien. J'ai assisté à tout cela, je l'ai en moi. Donc je ne peux pas oublier ça, je ne veux pas l'oublier. C'est pas parce que je suis homosexuel que les corps, les vibrations, la solitude de mes sœurs, les larmes de mes sœurs, je les ai vues, je les ai en moi. Je ne peux pas les oublier, je les porte en moi. Et ce n'est pas parce que l'homosexuel est soi-disant, n'est pas attiré par le corps de la femme, qu'il ne comprend pas la femme et qu'il ne la porte pas en lui-même.
On en parlera encore et encore. Il y a une autre image de votre enfance que vous gardez, une image importante, c'est quand vous alliez avec votre mère au mausolée Sidi Moulal Ibrahim. Vous accompagniez votre mère dans ce mausolée. Et c'était quoi ce lieu ? C'était un lieu où on demandait quoi ?
À l'époque, dans les années 70 et 80, là où j'habitais, il y avait encore des champs, une partie de la ville de Salé. On n'était pas loin de la base militaire, pas loin de l'aéroport de Rabat, alors qu'il se trouvait à Salé. On l'appelait l'aéroport de Rabat, mais il se trouvait à Salé. Mmh. Et donc, plus loin que la base militaire, il y avait effectivement ce mausolée du saint Sidi Moulay Ibrahim. Mmh. Mais quand je dis mausolée, il faut imaginer quelque chose
de... C'est une petite baraque.
Avec des choses très très simples, avec une kouba quand même. Et ma mère aimait beaucoup, beaucoup y aller pour avoir la baraka, pour avoir un petit peu de pureté, pour ramener quelque chose qui pourra nous sauver dans notre quotidien noir, dans la maison.
Pour moi, ça, d'une manière... On priait qui ?
On priait le saint. Pour demander quelque chose, pour demander l'intercession, pour peut-être même avoir du sexe et je ne sais quoi d'autre, et même jeter des sorts à quelqu'un, il faut aller là-bas, faire un petit rituel, tourner autour de cette tombe, mettre des bougies, apporter de l'eau de fleur d'oranger, faire des tours, dormir même là-bas. Et ma mère avait besoin de cela parce qu'elle venait de la campagne et qu'elle-même, elle dit qu'elle était descendante d'un autre saint qui portait le même nom.
Ouais.
Et pour elle, c'était très important. Et du coup, pour moi, c'est très important parce que les saints, les mausolées de saints jouent un rôle extrêmement important pour le peuple marocain, le peuple pauvre. Et dans, aussi bien dans sa sociologie que dans sa sensibilité, dans sa façon de résister au pouvoir qui l'opprime.
Et justement, qui venait là ?
Ah, beaucoup de femmes, les femmes peut-être rejetées, les femmes qui avaient des problèmes avec leur mari, avec leur famille, des femmes possédées par des djinns.
Donc il y avait des scènes de possession aussi.
Il y avait des scènes de possession et des rituels de possession et des rituels pour satisfaire les djinns. Il y avait aussi des gens qui veulent...
Les djinns, c'est les esprits. Hein.
Pas les esprits comme on les entend ici en Occident, parce que pour les musulmans...
C'est le génie.
Pour les musulmans, il y a les êtres humains, mais il y a aussi les djinns qu'on ne voit pas. Et tout le monde n'a pas la capacité de les voir, sauf les personnes possédées. Une de mes sœurs était possédée, donc j'ai assisté à cette chose incroyable. De temps en temps, le djinn se réveillait et elle, son corps est tombé, il fallait faire quelque chose.
Elle était en transe.
Transe, et elle perdait en fait conscience. Et tout d'un coup, le djinn en elle parlait à travers son corps. Et donc nous, il fallait qu'on fasse quelque chose pour amadouer le djinn.
Et vous faisiez quoi justement ?
Bah, ma mère savait quoi faire. Nous, on était subjugués, on était terrifiés. Et en même temps, on ne pouvait pas faire autre chose que de regarder ce qu'elle y arrivait.
Fasciné aussi, c'est ça.
Fasciné, subjugué, terrifié, les deux. Les pas deux. Seulement. Parce que pour moi, souvent, je parle que l'idée de l'invisible, l'idée de ce que c'est le ciel, ce que c'est Dieu et tout ça, si ça existe, ça se transformait là, avec le corps de ma sœur et le djinn qui l'habite, qui veut sortir et qui veut parler à travers elle. À travers sa bouche, son corps et tout ça. Et c'était des djinns hommes, pas des djinns femmes. Et c'est ma mère qui savait leur parler. C'est ce qui fera que j'aurai toujours une admiration éternelle avec ma mère, parce qu'elle, elle n'avait pas peur de dialoguer avec le djinn et parfois même avec le diable.
درنا البنات كاملين نساو الجرم صافين عالزيت اسم داب الزين المسكين هو وصيف الصوم كاع تهرس تخلي عيطو من عندو زويتا يسلفو حتى من كور يكيفو الى بغا يضيعو في نوبتو بالبنية راه رعفو شمال الكلب طيحو حبي راسك لا يفوزو بيك القمانية بلاد الجزارة مجبدين من فوق تلقاه بيرزين الجزارة مجبدين من فوق تلقاه بيرزين من تحت دار عظيم سين عطي الفلان بالفلان وعطي المقدم بالتمام ناس الحومة كاملين دراويش بحالي كاينين واخا يقبضوه المسلمين تقول شنتي فايس اللفو مشى عند مريتو قالت له يا عيسك الرجال مالك شفت القفة خاوية سير عند المخاشفة شكون هما المخاشفة اللي بيعوا الروس مع الكرشة هو يعبر وانت عزل لا يعمل لك من خاص العجل تبقى في الطنجي متى الدور وتصبح حنا بلا فطور وحبي راسك لا يفوزوا بيك القومانية فلان
Abdel Attaya, qui est ce chanteur qu'on vient d'entendre ?
Et il s'appelle Hossein Slaoui, c'est un des chanteurs les plus connus, les plus populaires au Maroc, même s'il est mort il y a déjà très longtemps, dans les années 50.
Ouais.
Il vient de la même ville que moi, Salé, et au départ il était un chanteur populaire dans ce qu'on appelle halqa, c'est-à-dire là dans les places publiques où des gens ils se mettent à côté d'un marché, ils se mettent un chanteur de rue, sauf que ça a formé ce qu'on appelle halqa, c'est-à-dire des gens qui, comme à la place Jamal Fna, vous voyez, voilà, c'est quelqu'un au milieu, les gens font un cercle autour, ça donne ce qu'on appelle halqa, et donc du coup celui qui fait ça s'appelle Hlaïqi. Et donc, il est passé d'un homme de la rue qui chante dans la rue à une gloire nationale au Maroc. Et ce qu'il caractérise, c'est un sens aigu de la critique sociale, de la critique du Marocain. D'ailleurs, la chanson s'intitule, il dit au Marocain, « Fais gaffe à ta tête, ô toi le Marocain, il y aura bien toujours quelqu'un qui va essayer de te voler ou bien de t'arnaquer. » C'est en fait une forme de... Il donne presque la leçon de la méfiance éternelle qu'on doit appliquer au Maroc. Moi, je suis extrêmement attaché à lui, j'aime sa joie, son humour.
Oui, c'est gay.
C'est gay et en même temps, il y a une critique sociale, il se moque des Marocains, il ose ça. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait ça au Maroc, il n'y a plus de gens qui osent faire cette critique réelle
et directe
à partir d'un contexte concret. Et je pense que c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il est très très bien considéré et très vénéré au Maroc.
D'ici, d'ailleurs, Zoé Varié.
وبعد
نكتب كتابنا ونرجع البلد واخش عليهم وانت في ايدي واقول له مرتي هي مرات اناوي ده انت هتبقي شكليطه في بلدنا يا بنتنا
طبعا
وبعد كده ابني لك حته بيت محنتك كده على البحر
ولازم على البحر
بعيد عن الزيتة والقطورات
يا اخويا احنا طول عمرنا عايشين في الزيتة واخدين عليها
لا الزيتة بتقلب كيان انا حته رايقه كده بعيد عن الناس في قبلي ونزرع لنا حته ارض ونربي لنا عجلتين ونعيش في التبات والنبات
ونخلف صبيان وبنات
وما نقساش على عيالنا ابدا ها
وفي حد بيقسى على عياله نهايته وبعدين ما تكمل وبعدين العيال يكبروا وبعدين نجوزهم وبعدين يخلفوا لنا صبيان وبنات
النومه
بتهدى العادي اللي هتبنيه على البحر يا اخويا فوق لنفسك افتح لك بيبس
انا كنت بتكلم جد
جد هو فين الجد ده عمال تبنيني في بيوت وتربيني في عجول وتسرح بيا السرحه دي كلها وتقولي بتكلم جد هتجيب ده كله منين انت حالتك القضاء
Abdel Attaya, c'était un extrait du film Gare Centrale, un des chefs-d'œuvre de Youssef Chahine que j'ai découvert grâce à vous. Le cinéma avait une place très très importante dans votre vie parce que tous les vendredis soirs, toute votre famille, vous, vos frères, vos sœurs, vos parents, vous attendiez avec impatience la diffusion du film égyptien.
Et j'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence dans cette attente, l'attente de l'apparition du film égyptien le vendredi soir. Vous savez, on a tous ce sentiment qu'il y a... Il y aura quelqu'un un jour qui viendra pour nous sauver, pour nous sauver. En tout cas, moi, j'allais à 43 ans, j'ai encore ce rêve que le sauvetage, je peux dire, de nous en tant qu'être humain sur cette terre trop cruelle, ne peut pas venir que de nous en train de écrire notre histoire individuellement. C'est pas suffisant d'être seul. Moi, je n'ai pas envie d'être seul. Et l'idée qu'il y aurait toujours quelqu'un, il viendra cet homme ou cette femme qui me sauvera de cette misère dans laquelle j'étais au Maroc, et même de la misère dans laquelle je suis. Aujourd'hui, cette idée m'a été inspirée par les films égyptiens. On attendait toute la semaine, 6 jours, pour y arriver. Et avant même que le film commence, on était là,
installés
par terre, avec toutes mes sœurs autour de moi, ma mère, mon autre petit frère, parfois mon père venait, parfois non, parce que des fois il était gêné par les mots d'amour.
Collés les uns contre les autres, c'est ça, essayez de me décrire la scène.
Collés les uns les autres, d'ailleurs j'ai mis ça dans mon film, il n'y avait pas assez de banquettes, donc certains étaient par terre, il y en a qui étaient collés à ma mère, le petit frère généralement, parce qu'elle était à ce moment-là son petit préféré, et puis mes sœurs, voilà, elles sont là, et puis je suis moi aussi à par terre, dominé par ces corps de femmes, mais en même temps dans la même attente de cette leçon d'amour et de sensibilité qui allait arriver, et je dirais même mieux que ça, cette façon d'apprendre à être malicieux, à être manipulateur, à dire les mots de l'amour, les mots du sexe, et comment exister à travers un corps qui peut-être n'a pas le droit de tout dire par les mots, mais il peut dire des choses avec une sensualité débordante, une sexualité qui est obvious, qui est là, mais qui ne se dit pas par les mots. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas.
Alors là, en plus, vous avez bien choisi votre extrait parce que Gare Centrale de Youssef Chahine ne parle que de ça, ne parle que de désir et de frustration. Hein.
Absolument.
Parce que le personnage principal, c'est un homme qui est dans la frustration et qui rêve d'avoir une femme qui colle comme ça dans sa cabane, des images de femmes presque nues. Et donc, je vous imagine en train de regarder tout ça. Il y a même une scène où la femme et l'actrice principale est habillée et mouillée. Donc, on voit tout son corps. C'est d'un érotisme fou. Donc, vous étiez à l'affût de tout ça. C'était un moment de liberté, de libération sexuelle.
Ah mais libération sexuelle, pas que pour moi, pour mes sœurs aussi.
Pour tout le monde.
Et ce qui m'a toujours plu et fasciné, c'est que nous avions cette jouissance tous ensemble. Et là, l'actrice, c'est pas n'importe qui, c'est Hind Rostom, elle est morte maintenant, mais elle est une immense star dans le monde arabe.
Elle était
magnifique, elle a un corps...
elle est ronde,
belle, une forme de... On appelle ça dala en arabe, une façon de faire la coquine.
Oui, elle a une forme d'arrogance, comme ça,
mais
elle
coquine,
joue avec les mecs.
Avec les mots, avec les postures de son corps et le mot pour dire ça en arabe c'est dala, c'est comment être coquine.
Ouais.
Et toutes les femmes dans le monde arabe ont appris à être coquine
comme
en
elle.
Regardant les femmes et les actrices égyptiennes. Je dirais même que moi-même j'ai appris à être coquine en les regardant et je dirais même plus que ça que jusqu'à aujourd'hui j'applique les leçons de cette femme dans mes histoires d'amour et de sexe.
Donc vous étiez là, assis tous ensemble, chacun en train de se raconter des histoires, en train de rêver, de fantasmer.
On apprenait.
Ah, vous appreniez, mais silencieusement, vous vous racontiez des histoires. Chacun en train de se faire une histoire de ce qu'il voyait.
Absolument,
c'est ça ?
Absolument. Et si j'ai choisi ce film-là, c'est parce qu'évidemment, il est très connu, c'est considéré comme un chef-d'œuvre, mais on a des films comme celui-là, plein dans l'histoire du cinéma arabe. Et donc, ce n'était pas quelque chose, comment on va dire, d'exceptionnel qui arrivait une fois l'an, mais c'était le rendez-vous hebdomadaire pour nous. Et ça parlait arabe. Ça, c'est très important.
Ouais.
C'est-à-dire, ça parlait une langue qui est à nous, la langue dans laquelle on est née. C'est pas une langue qui vient de loin, en anglais ou en français, qui va nous dire que la liberté n'existe que dans cette autre langue, la langue française ou la langue anglaise. Là, l'idée de voler la liberté et faire une transgression se passait dans la langue
arabe, dans votre langue maternelle.
La langue de mon père et de ma mère, c'est très important.
C'est-à-dire que c'était des scènes de jouissance collective, hein. C'est comme ça que vous les décrivez, c'est-à-dire tous ensemble, en train, chacun à votre façon d'avoir du plaisir, et dans votre langue, alors que cette langue interdisait ce type de jouissance ouvertement, en tout cas.
A priori. C'est toute la contradiction du monde arabe et toute la complexité de la réalité du monde arabe. Entre ce que les dirigeants politiques disent et ce que de la religion musulmane, soi-disant, doit représenter, et la réalité dans laquelle nous vivions tous et qui était représentée dans les films égyptiens. Donc, et quand je parle du monde arabe, quand je parle de la femme dans le monde arabe, moi je n'ai pas envie de conforter les idées politiques des dirigeants dictateurs dans le monde arabe et les idées clichés qui se trouvent sur ce monde arabe dans l'Occident. Moi, j'ai toujours envie de parler de ces femmes égyptiennes qui étaient la liberté même.
Ah, la liberté même.
De mes sœurs, regardant tout ça, et puis surtout de moi, au milieu de homosexuels, au milieu de ces familles, au milieu de tout ça, apprenant, regardant tout ça en même temps qu'elles. C'est très, très important.
Mais justement, au début, vous ne saviez pas que vous étiez homosexuel, un peu différent. Vous aimiez vous asseoir sur les genoux du mari de votre sœur pendant ces séances de cinéma. Et tout ça amusait un peu tout le monde. Vous auriez passé votre vie entière sur ces genoux tellement vous y étiez bien. Et puis, il y a un jour où ça n'a plus amusé votre famille et qu'elle a compris que là, il y avait quelque chose qui était vraiment différent chez vous. Et vous avez été obligé de vous séparer de cette famille pour être ce que vous êtes, c'est-à-dire homosexuel. Vous avez dû vous déchirer, quitter ce corps, ne plus faire corps avec cette famille. C'est ça, votre histoire.
Je pense que c'est l'histoire de tout homosexuel, j'ai l'impression, sur cette terre, qu'il habite à New York ou à Mexico City ou bien au Caire. Il y a quelque chose de terrible quand l'homosexuel arrive à l'adolescence et que tout d'un coup le machisme, l'hétéronormisme, si je peux dire, qui règne dans le monde partout, l'oblige tout d'un coup à se conformer à ce que doit être un homme. Et comme évidemment la famille ne peut pas affronter le monde entier, ne peut pas affronter tout le quartier, ne peut pas affronter les autres membres de la famille, il ne peut pas affronter le pouvoir, donc eux-mêmes ils s'écrasent devant ce que les autres ont dicté. Donc il a fallu, j'ai compris, mais là je pense que tout homosexuel se reconnaîtra dans cela, j'ai compris que je suis avec eux, je les aime, mais malgré tout, malgré eux, malgré moi, il faut que je devienne seul, il faut que je construise ma solitude.
Il faut que vous vous sépariez. Mais séparation de corps, c'est ça que je trouve
alors
encore plus intéressant chez vous.
Alors que je suis encore avec eux.
Encore avec eux.
Parce que nous étions tous pauvres et l'idée d'aller ailleurs était peut-être un rêve, mais était un rêve totalement impossible. Donc j'ai vécu tous mes rêves de l'enfance et de l'adolescence et la construction de mon identité sont tous liés à l'idée de l'impossible. Ça n'arrivera jamais.
Mais pourtant, vous avez quand même essayé de le faire, puisque pendant des années et des années, vous avez essayé d'accéder à cet impossible et de construire...
Mais avec rien.
Avec rien, mais avec vous, avec ce que vous étiez,
mais
avec
j'ai...
votre détermination, votre mais volonté de vous sauver.
C'est pas une détermination comme on peut en parler là aujourd'hui comme des adultes. C'est une détermination d'un petit enfant, d'un adolescent qui est de naïf total, qui, je sais pas moi, il regarde son chanteur préféré et tout d'un coup il rêve avec lui, mais ça n'a aucune assise dans la réalité. Les rêves, on continue, je ne les ai pas abandonnés, mais je n'étais pas si conscient que ça que j'avais de la détermination et du courage. Je rêvais de films, je rêvais de cinéma, j'étais homosexuel, on m'insultait, on me violait, personne ne pouvait me protéger. Il fallait bien que je construise un espace
pour
où j'étais...
Pour me sauver.
Pour me sauver, mais ce n'était pas aussi conscient d'une manière...
C'était pas conscient, vous n'étiez pas conscient qu'il fallait sauver votre peau.
J'avais conscience que qu'il fallait sauver ma peau, mais je ne savais pas que j'avais la force de résister à tout ce monde-là, là-bas. En fait, je ne faisais que me cacher pour me sauver.
C'est-à-dire vous avez construit un personnage pour vous...
J'ai construit un personnage, bien sûr, j'ai construit un personnage. J'ai commencé à mentir, j'ai commencé à baiser les mains des gens pour qu'ils me laissent tranquille. Si quelqu'un voulait me baisser le pantalon, il fallait que je trouve une stratégie pour que ça n'arrive pas. Je suis devenu un très très grand menteur parce que j'étais pédé. Parce que le monde n'acceptera jamais la vérité. Vers qui aller quand on est homosexuel pour dire quoi ? Excusez-moi, non. Ils veulent bien vous violer, mais après, ils vous jettent des pierres. Donc comment, après tout ça, construire quelque chose avec l'idée de se sauver avec détermination et une conscience totale ? En fait, on se sauve toujours en faisant avec les moyens de bord ou... En se cachant, voilà. Moi, j'étais devenu un très grand menteur.
Oui, mais vous
obligé,
êtes...
bien sûr.
Bien sûr, vous étiez obligé et vous avez, d'une certaine manière, planifié tout ce que vous vouliez et votre départ, partir à tout prix. Ça, c'était conscient ou non ?
C'est arrivé à partir du bac, quand j'ai décidé que là, il fallait vraiment devenir réalisateur sérieusement et que les images de certains films français que j'avais vus à la télévision, notamment le visage d'Isabelle Adjani dans L'histoire d'Adèle H, Les enfants merveilleux dans L'argent de poche, le film de François Truffaut, c'est des images qui m'ont marqué. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut aller là-bas, essayer ce qu'ils ont comme libre, ces Français.
Aurait-on de vous donner conseil sur les périls où beauté vous expose? Fille ressemble à ce bouton vermeil qu'en peu de jours on voit devenir rose. Dans quel bouton on voudrait en jouir? Nul ne le voit sans désir de rapine. Dès que le soleil l'a fait épanouir, on en tient compte un matin le ruine. De rose alors ne reste que l'épine. Lorsqu'un amant l'exemple est tout pareil, fait voir désir à qui pudeur s'oppose. Si l'on ne fuit, l'amour est un soleil. Point n'en douter par qui fleur est éclose. Alors en bref, on voit s'évanouir. Transports et soins par qui fille peu fine. Résume d'elle et se laisse éblouir.
Méprise succède à l'amour qui décline. Le rose alors ne reste que l'épine. Plus de commerce avec le sommeil. Aussi parfois un moment on repose. Songe cruel donne fâcheux réveil. Santé sans foi, on en maudit la cause. Voir on voudrait dans la terre s'enfouir. Tendre secret duquel on s'imagine qu'un traître ira le monde réjouir. Par le tombeau, on croit qu'on le devine. De rose alors ne reste que l'épine.
Abdel Attaya, c'est vous qui avez choisi d'écouter cette chanson. C'est Isabelle Huppert qu'on vient d'entendre chanter. Et en fait, son côté glacé répond d'une certaine manière à la glaciation que vous avez dû opérer de vous-même pour vous en sortir. Il y a quelque chose comme ça, c'est mal dit ?
Non, c'est pas mal dit du tout, mais c'est une glaciation que je n'arrive à comprendre que depuis à peu près, à mon avis, 3 ou 4 ans par rapport à Isabelle Huppert. A priori, je suis plus du côté d'Isabella Gianni. Isabelle Huppert, pendant longtemps, me paraissait trop loin de moi, trop glacée. Et puis un jour, je l'ai vue au théâtre de l'Odéon, et là, j'ai compris d'où venait cette glaciation en elle, et qu'est-ce qu'il y avait extrêmement transgressif dans cette glaciation et d'aborder le monde et de le détruire, notamment le modèle bourgeois en France. Mmh. Isabelle Huppert est une spécialiste de ça, la destruction du modèle bourgeois et de la bien-pensance.
Et c'est Chabrol,
La Cérémonie notamment, et plein de films, toutes ces tueuses qu'elle a incarnées. Mmh. Et tout d'un coup...
Vous y êtes reconnue?
Je me suis reconnue dans ces crimes qu'elle a commis.
Ah, parce que quel crime vous avez commis?
Ah, mais j'en ai commis plein. Et d'abord, j'ai trahi ma famille pendant que j'étais avec eux. Je me suis séparé d'eux et tout d'un coup, j'ai commencé à les critiquer, à les regarder avec un regard distancé et froid. Mmh. Même ma mère, alors que j'étais à côté d'elle, je n'avais que 15 ans. Après, j'entrais dans la chambre de mon grand frère, je volais ses vêtements, même sale. Je faisais des choses étranges avec ses vêtements de mon frère. Je volais ses livres. Après, quand ma mère voulait lui jeter des sorts, j'allais avec elle pour jeter le sort au grand frère. Ma mère, quand elle allait aussi chez les sorcières, j'allais avec elle, c'est faire du mal. Et même après, en arrivant ici, tous les hommes que j'ai aimés beaucoup, je leur ai brisé le cœur, malgré moi, parce qu'il fallait bien que je me libère. Je déteste cette idée qu'on m'emprisonne au nom de l'amour. Mais je me rends compte quand même que je leur ai fait beaucoup de mal. Et que mon cœur, comme les personnages interprétés par Isabelle Huppert dans plusieurs de ses films, est entré dans une glaciation, mais il y a très longtemps. Et peut-être que Isabelle Huppert me faisait peur justement à cause de ça.
Mais ce qu'on comprend, c'est que vous connaissez bien le cinéma, et c'est pas pour rien, puisque au départ, vous vouliez venir en France pour faire l'IDEC, vous vouliez faire une école de cinéma.
Absolument.
Et alors, vous avez trouvé l'adresse de l'IDEC, vous avez envoyé une lettre, et vous avez été très étonné de voir qu'on vous répondait. Et cette réponse, pour vous, a été une confirmation que vous deviez partir et que c'est ici, à Paris, que vous deviez venir. Et c'est ça, hein, c'est comme ça que ça s'est passé.
C'est passé un miracle.
Un miracle.
Voilà, et c'est passé un miracle parce que je ne savais pas qu'il y aurait quelqu'un de l'autre côté qui allait me répondre. Or, non seulement cette femme qui m'a répondu, donc, qui est la secrétaire de l'IDEC, qui s'appelle aujourd'hui la FIMIS, qui est une très grande école de cinéma en France, elle m'a répondu avec une grande lettre, avec le dossier sur le FIMIS, qu'il fallait que je fasse. Et c'était l'année du bac. Et elle m'a dit, il faut que vous maîtrisiez la langue française, donc je vous conseille d'étudier la langue française chez vous. Et c'est pour ça que j'ai étudié la littérature française à l'université marocaine. Parce que pour entrer à la FIMIS, il faut avoir le DEUG. Tout à l'heure, vous parliez de planifier. C'est ça pour moi, planifier. Mais en même temps, c'est planifier avec beaucoup d'innocence et beaucoup de... Certes, la détermination, mais beaucoup de naïveté. J'ai écrit une lettre, mais elle a répondu, parce que j'imagine que cette lettre était bourrée de fautes, venant des petits Marocains ne parlant même pas bien le français à l'âge de 16 ans. Mais elle a quand même répondu, et je me suis dit, je vais appliquer ce qu'elle me dit, cette femme française qui a un grand cœur.
Vous avez commencé des études de littérature, et vous êtes devenu un des meilleurs élèves de l'université, même le meilleur élève
de ma promotion.
De votre promotion pendant plusieurs années.
5 ans.
Pendant 5 ans, vous étiez le meilleur.
C'est-à-dire qu'après le DEUG, j'étais toujours pauvre et que l'idée d'aller en France, rêver la France, exister en France, le visa, l'argent, tout ça, je ne connaissais personne. Je n'avais pas encore trouvé un occidental à séduire et à manipuler pour qu'il m'amène jusqu'ici.
Pour qu'il tombe amoureux de vous, pour vous amener jusqu'ici. Mais en tout cas, ce que vous avez compris, c'est que la langue française allait être un outil de votre planification. C'est-à-dire, pour vous sauver de là, il fallait maîtriser cette langue et vous vous y êtes employé. Et très bien employé, puisque vous avez fait votre devoir de maîtrise sur Maupassant. C'est ça ?
Le mémoire de maîtrise sur Maupassant
et votre DEA sur Proust.
Oui.
Et ça, c'est à ce moment-là que vous vous construisez comme écrivain.
C'est-à-dire que j'ai, tout d'un coup, j'avais l'impression que toutes ces folies qui étaient en moi, avant d'arriver à la langue française, j'ai trouvé l'écho de tout cela chez Maupassant, qui est un auteur totalement fou, chez Arthur Rimbaud, chez Stendhal. Il compte énormément Stendhal pour moi. D'ailleurs, je faisais même un lien de la passion, de description, de l'attente et l'ambition et l'amour en même temps avec les films égyptiens. Et je me disais, je vais être Stendhalien, je suis Stendhalien, je suis Julien Sorel, je suis Fabrice Del Dango, je n'ai pas honte d'avoir de l'ambition et d'être arriviste, je vais y aller jusqu'à Paris. Je n'avais toujours pas d'argent, mais c'est comme ça que j'ai abordé la langue française, comme un moyen, le pouvoir, et non pas dans un amour bêta.
Voilà, de... c'est pas romantique votre relation à la langue française, c'est pas la belle langue.
Non, c'est la langue du pouvoir.
C'est la langue qu'il a fallu mater, et en ça vous me faites penser un peu à Lydie Salvert, hein,
ouais,
qui nous a dit des choses un peu similaires sur la langue française. Et...
Parce qu'en France, on attend toujours que des étrangers comme moi, qu'ils déclarent leur amour éternel, mais leur vénération pour la langue française. Je viens de la colonie, d'une ancienne colonie française quand même. Et la France n'a pas laissé que de bons souvenirs au Maroc.
Ah bon ?
Elle a laissé beaucoup, beaucoup de choses terribles. Et donc mon rapport à la langue française ne peut pas être apaisé, né dans l'amour. Il est forcément dans quelque chose de colonial. D'ailleurs, le roman que j'ai écrit, le dernier, Celui qui daigne d'être aimé, parle de ça. Comment quelqu'un comme moi, aujourd'hui 43 ans, est d'une certaine façon encore colonisé, encore un corps colonisé. Donc quand je me suis mis à cette langue française, je n'avais pas peur de cette langue. Mais je n'étais pas dans l'amour fou. Donc je me suis dit, je vais y aller avec, comme un petit chaton qui croise un autre chaton et qui veut protéger son territoire tout en volant le territoire de l'autre, tout en allant vers le territoire de l'autre.
Mais quand même, vous, chaton, vous dites.
Oui, j'aime
après
bien les chatons.
Après les crimes, vous devenez un chaton.
Un chaton, mais avec des griffes. Hein.
Attention.
Avec des griffes. Hein.
En tout cas, vous arrivez à Paris en 98, vous avez une nouvelle dans vos poches. Et quelques années plus tard, vous recevrez le prix de Flore en 2010. Écoutez ce que vous disiez lors de cette remise.
Je venais d'arriver à Paris. J'avais fui sans argent à Paris. Et je ne sais pas pourquoi le nom de René Tsekati n'arrêtait pas de revenir dans les journaux, dans les librairies. Et je me suis dit, il faut que je rencontre cet écrivain. J'ai un texte et je veux que cet écrivain lise ce texte. Je vous raconte tout ça, c'est très important pour moi parce que c'est le début de quelque chose. Parce que je venais d'arriver, de quitter le Maroc, j'avais l'impression que je devais prouver quelque chose et faire quelque chose. Et aller vers quelqu'un, et c'est quelqu'un, c'est René Tsekati. René Tsekati m'a accueilli au 27 rue Jacob pendant 3 heures. Pendant 3 heures, je ne sais pas de quoi on a parlé, mais il y a quelque chose qui s'est ouvert grâce à toi, René, encore plus dans cette ville. J'avais un seul texte que je lui ai donné qui s'intitulait « D'un corps à l'autre ». Donc ce soir, je voudrais vraiment pas rendre hommage à René Tsekati, mais rappeler cette histoire parce qu'elle est l'origine de beaucoup de choses. Et je n'oublierai jamais ces 3 heures passées avec toi, donc en août, début août, quelques jours avant mon anniversaire, en 1998. Voilà, merci René de tout mon cœur.
D'ici, d'ailleurs, sur France Inter.
Abdel Attaya, vous êtes sévère avec vous, parce que là, en écoutant, vous disiez « je faisais mon séducteur ».
Oui. C'est-à-dire que là, j'ai prononcé ce discours en 2010, là, donc là, je n'ai jamais réécouté, donc là, je le réécoute et je vois ce que je suis en train de faire et ce dont je suis capable.
Oui, mais ça, on n'en doute pas, on le sait, ce dont vous êtes capable. Mais moi, la question que je me posais, c'est ce jour-là, vous vous êtes dit que cette planification avait fonctionné, vous vous êtes dit « j'ai réussi », vous vous êtes dit « j'ai eu raison, je vais pouvoir souffler », qu'est-ce que vous vous êtes dit ?
En fait, j'appuie volontairement sur l'idée que je suis un petit peu du côté du mal, un peu comme Jean Genet. J'aime bien cette idée que...
Et vous aimez Jean Genet?
Et j'aime Jean Genet, bien sûr. Comme beaucoup d'homosexuels, j'aime et je vénère Jean Genet. Et parce que je n'ai pas envie trop de dire au monde toute ma sincérité. Je pense que le monde ne mérite pas toute ma sincérité. Les constructions politiques, les constructions sociales dans lesquelles nous vivons tous, même en France, ne méritent pas qu'on donne tout son cœur au monde. Et parfois le monde, pour qu'on puisse y avoir une place, il faut, nous le savons tous, il faut batailler. Même quand on est avec des collègues, on sait qu'il ne faut pas tout dire. Il sait ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire.
Donc ça veut dire que vous êtes encore en train de batailler. C'est
bien
ça,
sûr,
c'est ça,
même
votre
en France, la liberté n'est pas pour tout le monde, même pour quelqu'un comme moi. La France croit qu'elle donne la liberté à tout le monde. Ce n'est pas vrai. Donc la bataille, des fois j'ai cette impression que le monde, ne mérite pas... mérite pas de savoir tout de moi. Donc il vaut mieux appuyer sur ce côté un peu calculateur, un peu arriviste. Je m'en tape si les gens disent « Oh là là, qu'est-ce qu'il est méchant !» Mais tout en faisant cela, je crois qu'il y a quand même quelque chose de... je sais pas comment dire... une foi, une croyance, une sincérité qui persiste à vouloir sortir de moi.
Malgré vous, presque. C'est malgré ça, ce que vous êtes en train de me dire.
Ouais.
C'est que malgré vous, vous dites des choses que vous préféreriez peut-être taire de vous. Vous aimeriez mieux passer pour un plus méchant
Que je ne le suis.
Ouais.
Mes cœurs, de temps en temps, elle me disait, mes cœurs, mes sœurs.
C'est joli, c'est joli, c'est magnifique. Elle disait quoi?
Parce que j'étais un petit peu leur esclave quand j'étais enfant.
Ouais.
Donc je faisais tout ce qu'elles voulaient, leurs petites courses, etc. Mais de temps en temps, quand il y avait, je résistais. Et quand je résistais, je ne changeais jamais d'avis. Et elle finissait tout le temps par me dire, elle finissait par me dire, mais tu as un sans-cœur, mais un dekshel qalb, tu n'as pas de cœur. Donc c'est comme ça qu'elle m'a appelé, celui qui n'a pas de cœur.
Mais c'est pas vrai.
Mais c'est aussi vrai.
C'est les deux.
C'est les deux.
Mais parce que vous avez certainement aussi beaucoup, beaucoup perdu dans cette bataille. Vous êtes abîmé dans cette bataille.
Il y a une chose qui me fascine toujours, c'est qu'à la fois, même quand on a dans l'amour sincère avec quelqu'un, dès qu'on se met à se parler et à discuter de quelque chose, arrive immédiatement l'impossibilité de communiquer et de se comprendre.
Mais je ne comprends pas pourquoi vous me répondez ça.
Je vous réponds ça parce que j'aimais mes sœurs et pourtant, elles ne voyaient pas que je souffrais.
Et c'est pour ça que je vous dis que le chemin vous a abîmé aussi.
Bien sûr, mais elle n'abîme pas que moi, elle a abîmé aussi mes sœurs. Ce que le monde a fait de mes sœurs aujourd'hui, elles ont renoncé à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses plus que moi. À la limite, moi, l'homosexualité, qui était une malédiction au départ, m'a protégé d'une certaine façon parce que j'ai construit tout dans la solitude. Et de cette solitude qui me pèse, j'ai fait une chose.
Et vous n'avez pas renoncé?
Je n'ai pas renoncé, mais franchement, quand je dis cette phrase, j'ai l'impression d'être comme un héros dans un film. Or, la vie n'est tout sauf un film bien construit avec une dramaturgie progressive. La vie est faite de beaucoup de chutes. On chute tout le temps, tous les jours. Yeah, yo. Yeah, yo.
Rihanna, while the whole club fucking waste.
D'ici d'ailleurs, on est toujours avec vous, hein, Abdel Ataya. Et vous adorez Rihanna?
Je ne vois aucune raison de ne pas l'adorer. Rihanna est une, comme femme, comme chanteuse, est totalement fascinante pour moi. Pour moi, elle est la chanteuse post-coloniale par excellence.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, je me suis posé la question. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et en tout cas, la chanson qu'on vient d'entendre est une chanson post-coloniale par excellence, parce que là, elle dit à une femme de lui rendre l'argent. En cela, c'est comme si elle s'adressait à cet Occident qui a appauvri le tiers-monde et le pays où elle est née, la Barbade. Et en faisant ça, elle parle aussi de tous les ex-colonisés. Et là, elle est une star aux États-Unis. Elle demande à la femme blanche de lui rendre l'argent qu'elle lui a volé.
C'est comme ça que vous l'entendez?
Ah, je suis sûr que ce n'est pas comme ça. Je ne suis pas le seul à l'entendre comme ça. Rihanna est une femme qui, physiquement, ce qu'elle dégage tout de suite m'intéresse. Et je ressens une forme de fraternité.
Gémellité,
fraternité avec elle. Je suis sûr qu'elle croit aux mêmes sorcelleries que moi, aux mêmes djinns que moi, et elle a les mêmes stratégies de méfiance que moi. D'ailleurs, le jour où je l'ai entendu dire que à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un pour la première fois, la première question qu'elle se pose, quand est-ce que cette personne va me faire du mal? C'est la première question qu'elle se pose.
Et c'est une question que vous vous posez aussi à chaque fois?
Que le Maroc a implanté dans ma tête, oui.
Oui, bien sûr. Donc, à cause de ce que vous avez vécu, des viols collectifs et autres.
Je dirais que même ma mère était dans cette méfiance-là vis-à-vis des autres. L'idée d'être à la fois dans l'intimité de l'autre, mais en même temps toujours garder une forme de contrôle par la méfiance, est une politique, je crois, que j'applique très 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 bien.
Qu'est-ce qui peut vous faire du mal, justement, à vous, Abdel Ataya? Est-ce que le regard que l'on porte sur vous, sentir qu'on vous regarde comme un petit Marocain, pauvre?
Non, qu'on me regarde comme musulman, comme pauvre, ne me dérange pas. Mais à condition qu'on s'entende sur le sens qu'on donne à ces mots. Musulman, pauvre, Marocain. Or, j'ai l'impression, et nous assistons à cette débâcle chaque jour, que pour plein de gens en Occident, le musulman, c'est l'ennemi. Alors, les musulmans, moi, j'ai un rapport à Allah, à Dieu, avec la foi, avec certaines pratiques, avec une culture qui vient de l'islam, qui vient de la sensibilité musulmane, l'histoire musulmane. Et moi, je n'ai aucunement l'intention de renoncer à cela. Or, j'ai l'impression aujourd'hui qu'en Occident, et même en France, il faut se conformer à ce que les autres ont décidé qu'on allait être comme musulmans.
Et moi, comme bon immigré.
Comme bon immigré. C'est-à-dire que non seulement on a écolonisé certains corps, arabes, musulmans, on les a amenés ici, on les a ghettoisés, on les a exploités, on les a demandé de s'intégrer. Et maintenant qu'il y a des problèmes avec certains islamistes terroristes djihadistes, on demande à ces musulmans, ces Français d'origine musulmane, de s'excuser, et en même temps on fait l'amalgame entre eux et les terroristes islamistes djihadistes. C'est quelque chose d'insupportable. Donc si vous me posez la question, qu'est-ce qui me fait mal aujourd'hui? Ben, c'est ça. Exactement ça, de se rendre compte que la liberté ne concerne pas tout le monde en Occident et que ça dépend de votre tête et de la couleur de vos cheveux, de la nature de vos cheveux. Et je l'ai dit plusieurs fois, je vous l'ai dit quand on s'est rencontrés la première fois, ce n'est pas parce que je suis homosexuel que je ne sens pas de solidarité avec les autres musulmans. Ce n'est pas parce que j'ai certains problèmes avec certains musulmans concernant mon homosexualité que j'oublie l'essentiel qui me lie à eux.
Et c'est pas parce que vous êtes homosexuel qu'on ne vous traite pas comme n'importe quel immigré, ici.
Ben
c'est-à-dire que le regard qu'on porte sur vous est le même que celui qu'on porte sur les travailleurs immigrés.
Absolument. Et d'ailleurs, je dirais même que j'ai un devoir, moi, en tant qu'écrivain, puisque je suis écrivain, de parler de ça, d'écrire cela, de ne pas se soumettre à cela. Parce que, je ne sais pas comment on est tout à l'heure, on parlait de... J'ai fait des études de littérature française à Rabat. Ben, j'ai rêvé de la liberté avec Stendhal. Comment puis-je aujourd'hui me dire que Stendhal ne m'aime pas? Alors, parce que je suis arabe musulman, ça me paraît inconcevable. J'ai aimé Stendhal, j'ai vibré avec Stendhal, j'ai vibré avec le Rouge et le Noir, j'ai même appris des passages par cœur. Or, j'ai l'impression aujourd'hui que ça ne suffit pas d'aimer Stendhal. C'est comme si Stendhal me rejetait lui aussi. Et ça, c'est inacceptable.
Et ça, vous avez l'impression, vous le vivez... Enfin, dans quel moment vous avez...
Tous les jours.
À travers... Ou quand?
Dans le métro, dans la rue.
Par les regards?
Bien sûr, à travers les regards, tous les jours. Ça s'est accentué depuis les attentats en France. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas ne pas dire cela. Il ne faut pas devenir ce petit musulman qui a peur de nouveau. Il ne faut pas entrer dans la peur du Français qui nous a colonisés de nouveau. On a étudié, moi je parle bien français, je crois, j'écris même en français. Je pense que j'ai un certain droit d'appliquer mon regard critique aussi dans l'espace français occidental.
Pourquoi vous dites qu'il ne faut pas retomber dans cette peur du petit colonisé ?
Parce que l'Occident ne veut toujours pas régler son passé colonial. Il ne veut pas qu'on lui rappelle ça. Pour lui, il a quitté le Maroc, il a quitté l'Algérie, il a quitté l'Égypte. Basta, il n'a rien fait de mal là-bas. Or, ces puissances coloniales, à partir du moment qu'ils ont quitté ces pays, ils ont installé des dirigeants dictateurs avec lesquels ils ont fait la main dans la main des stratégies pour les intérêts des uns et des autres. Et le peuple arabe dans tout ça, et les musulmans dans tout ça. C'est comme si tout d'un coup la mémoire des peuples arabes, comme si tout ça, ça ne comptait pas. Et qu'il y a un petit ex-colonisé comme moi qui se lève pour rappeler ça, bah ça passe pas.
Et est-ce que ça veut dire, Abdelataya, que vous aussi, vous avez eu peur ?
Bien sûr, je me rappelle.
Vous
quand
avez
je...
eu peur de dire...
Mais quand je suis arrivé en France, j'avais peur des gens qui citaient Michel Foucault devant moi, parce que je ne comprenais pas tout de Michel Foucault à l'époque. J'avais peur... Par exemple, même les films de Robert Bresson, je me souviens que j'avais peur de les regarder. Parce que l'image et l'idée qui sont véhiculées autour de Robert Bresson sont tellement intellectuelles, tellement plus loin que moi, qui viens d'un milieu très pauvre et qui aime les chanteuses populaires, j'avais l'impression que je ne comprendrais rien à Robert Bresson.
Que vous n'étiez pas légitime ?
Que je n'étais pas légitime, que je n'avais pas le droit d'aimer et de comprendre, moi aussi, à ma manière, Robert Bresson. Or, quand j'ai découvert finalement Bresson, j'avais l'impression qu'il parle de moi. C'est pour moi le cinéaste le plus grand au monde, Robert Bresson.
C'est très intéressant de vous écouter parler, parce que c'est comme si aussi vous aviez mis du temps à comprendre que tout ça, c'était des comportements racistes, néocoloniaux qu'on avait avec vous.
En tout cas, l'écriture, ce qu'on donne dans l'écriture, ne peut pas se passer seulement dans la paix et dans la joie et la bonne humeur. L'écriture forcément interpelle quelque chose de profond qui nous demande, nous, moi en tant qu'auteur, à aller trop loin, toujours trop loin, et ne jamais avoir peur d'aller trop loin.
Et vous voulez crier ? Il y a quelque chose que vous... C'est de l'ordre du cri aussi, votre écriture. C'est très violent, hein, votre dernier
mais
livre.
Depuis le départ,
mais encore le dernier, là, oui. Celui qui est digne d'être aimé. C'est un livre très violent.
C'est comme Isabella Gianni qui crie, dans Camille Claudel, par exemple, elle a plusieurs scènes où elle crie. C'est comme le cri de Munch, ouais. C'est comme le cri dans certains tableaux de Francis Bacon, qui à la fois... Et on crie tellement que notre corps se coupe en deux. Et bien c'est ça ce que ça doit être l'écriture pour moi.
Et si tu m'avais cherché, de soir en soir, de bar en bar, et si tu m'avais trouvé, et qu'il ne soit pas trop tard, pour le temps qu'il me reste à vivre, stopperais-tu ta vie? Vivre avec moi sur ton île aux mimosas, nous aurions la fierté et les tours de cathédrale, et nous serions plus près du ciel et des étoiles, nous saurions le secret des aurores boréales. Il y a si peu de temps entre vivre et mourir, il faudrait bien pourtant
s'arrêter de courir.
Toi que
j'ai souvent cherché à travers d'autres regards, et si l'on s'était trouvé et qu'il n'en soit pas trop tard,
le temps qu'il me reste, je voudrais vivre avec toi sur ton île aux mimosas. Oh, moi que j'ai cherché pour le temps, oh, le temps qui me reste, je voudrais vivre avec toi sur ton île aux mimosas.
C'est moi qui vous applaudis, c'est magnifique.
En tout cas, l'union et l'osmose qu'il y a entre Barbara ici et les gens autour d'elle, c'est quelque chose de l'ordre du divin.
En tout cas, on voulait terminer cette émission comme ça avec vous parce que Barbara vous réconcilie avec la France. Comment ?
Parce qu'il m'a fallu du temps pour sortir de mon regard inférieur par rapport à certains éléments de la culture française. Je n'osais pas regarder, écouter Barbara, Françoise Hardy. Ça me paraissait, je me sentais presque illégitime. Donc du coup, moi-même, je rejetais Barbara pendant longtemps. Je me disais, pas pour moi. Donc j'avais une forme de fierté mal placée.
Mais maintenant, vous n'avez plus peur de la France, vous n'avez plus peur de parler.
Je n'ai pas peur de la France du tout.
Vous n'avez plus peur. Et vous êtes légitime? Vous êtes
je
là,
me sens
vous
légitime
là.
De parler.
Et vous resterez là, vous êtes
bien
là.
Bien sûr, je suis à Paris.
Vous êtes à Paris et vous y resterez.
Oui.
Merci, Abdellah Taïa, d'avoir passé cette heure avec nous. Votre dernier livre, Celui qui est digne d'être aimé, est publié aux éditions du Seuil. C'était d'ici d'ailleurs une émission préparée par Alexia Lacour, réalisée par Fanny Beauhuon. À la programmation musicale, Djoubaka. À la technique ce soir, Gilles Gaillard. Vous pouvez réécouter l'émission ou la podcaster sur franceinter.fr. Ne l'oubliez pas.
Retrouvez toutes les rencontres d'ici, d'ailleurs, de Zoé Varier sur l'appli Radio France. À suivre sur Inter, les décryptages sans prise de tête de Zoom Zoom Zen.
If it's momentary, I wanna talk with a gag. If it's a bottle of